La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans notre déjà sixième émission de la Semaine de l'Art, que vous pouvez écouter, je vous le rappelle donc, en direct sur notre site, en différé également, ou à partir d'un smartphone, ou à partir d'une tablette. Nous avons comme invité aujourd'hui Xavier Salmon. Bonjour Monsieur Salmon.
Bonsoir.
Directeur du département des arts graphiques, donc qui nous parlera largement du musée du Louvre où il est arrivé il y a quelques mois, et également certainement de son expérience antérieure dans beaucoup d'endroits différents, notamment des musées châteaux tels que Fontainebleau et Versailles, mais également au ministère de la Culture, et qui nous dira également peut-être quelques mots sur une exposition qu'il a aimée récemment. Avant de commencer cette chronique, j'ai une triste nouvelle, hélas, à annoncer à ceux qui le connaissaient. Patrice Bélanger, marchand bien connu de sculpture, vient de décéder. Hélas, il était malade depuis quelque temps. C'est vraiment une perte pour l'histoire de l'art en France et pour le marché de l'art également, puisque c'était vraiment un grand spécialiste de la sculpture, qui a vendu beaucoup d'œuvres au musée, qui a découvert énormément de choses. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui sera très regretté de tous les amateurs de sculpture, de tous les amateurs d'art. Et effectivement, on vient juste d'apprendre la nouvelle, donc c'est un peu une manière triste de commencer cette émission.
La chronique.
Notre chronique sera donc consacrée aux œuvres et aux propriétaires spoliés, à la récupération et à la restitution des œuvres d'art. Nathaniel Herzberg signait hier dans Le Monde une analyse intitulée « Spoliation et œuvres d'art, sortir de l'hypocrisie ». Il y revient sur l'action des musées français pour rechercher les légitimes propriétaires des œuvres dites MNR, comme musées nationaux récupération, c'est-à-dire celles qui restent encore aujourd'hui conservées dans le musée car leurs propriétaires légitimes n'ont pas été retrouvés. Les conservateurs ont-ils ou non suffisamment cherché à retrouver les ayants droit? Les commentaires se focalisent beaucoup sur cette question ces dernières années. Mais si ce débat est légitime, il convient de se poser la question de savoir quelle est exactement aujourd'hui la responsabilité des musées français. Si leur attitude pouvait être autrefois questionnée, il est certain que désormais la plus grande transparence règne. Les collections MNR ont été et sont toujours largement médiatisées, que ce soit grâce à des expositions, à un site internet, nommé Rose Valland en l'honneur de celle qui a participé largement à la récupération et à la sauvegarde des œuvres volées par les nazis, mais aussi la présentation des œuvres dans les musées, des œuvres MNR, est de plus en plus claire. Dans le nouvel accrochage du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, dont nous parlions récemment, tous les MNR sont exposés, ce qui peut d'ailleurs poser des problèmes de qualité. Parfois les œuvres sont d'une qualité insuffisante pour être montrées, mais on les montre quand même parce qu'il faut retrouver leurs propriétaires. De même, Nathaniel Herzberg prend l'exemple des musées d'Angers, où la directrice Ariane James-Sarrazin explique que les 7 œuvres en déraison et en déshérence exposées dans son établissement dispose d'un cartel et d'un sigle spécifique, d'un dépliant à part, gratuit, clair, et d'une publicité particulière sur le site du musée. La question, en réalité, est de savoir si le ministère de la Culture et les musées doivent aller plus loin et avoir une démarche proactive de recherche des propriétaires. Il ne faut cependant pas oublier que depuis plusieurs années, un conservateur, Thierry Bajou, est spécifiquement affecté à cette tâche et a déjà eu quelques succès à son actif. On lui doit d'ailleurs la création du site internet. Mais est-ce le rôle des conservateurs du musée de passer beaucoup de temps à ces recherches plutôt que de s'occuper de leur collection? La réponse n'est pas forcément évidente. Ces enquêtes pouvant être très longues et forcément aléatoires. À quel moment doit-on arrêter de chercher? En revanche, un point n'est jamais abordé, ou presque jamais. Lorsque des œuvres sont restituées aux descendants de leurs propriétaires spoliés, il est très dommage que le ministère ne se pose pas la question de leur rachat par l'État français. Sauf par exception, comme ce fut le cas en 2005 à Strasbourg, après la restitution d'un Canaletto acquis par le musée en 1987. En revanche, en 2005 également, un tableau de Guardi, restitué par Toulouse, a été acquis par le Getty Museum, sans qu'il soit, à notre connaissance, une seule seconde question, qu'il soit racheté par le musée des Augustins, qui n'avait d'ailleurs pas les moyens de le faire. La ministre de la Culture, qui souhaite aller plus loin et plus rapidement dans la restitution, ce qui est extrêmement louable, semble se désintéresser ensuite du devenir des œuvres. Quoi qu'il en soit, elle n'en parle jamais. Elle serait pourtant parfaitement dans son rôle si elle se fixait pour règle de proposer systématiquement cette solution aux membres de la famille spoliée, à condition bien sûr qu'ils le veuillent, et en dégageant un budget spécifique qui ne viendrait pas gréver ceux d'acquisition de nos musées, déjà bien trop faibles, et qu'elle ne cesse de réduire. Elle montrerait ainsi qu'elle est sensible à l'enrichissement du patrimoine des musées tout en faisant honneur aux propriétaires spoliés, en permettant à leurs œuvres de demeurer définitivement dans les collections publiques françaises. Je me tourne maintenant vers Xavier Salmon, donc directeur du département des arts graphiques. Est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours qui est assez riche depuis vos débuts ?
Alors, mon parcours a commencé au cabinet des dessins, puisqu'à l'époque ça s'appelait le cabinet des dessins. J'ai été étudiant de l'école du Louvre en spécialité histoire du dessin. Et j'avoue que pendant ces 3 années, donc sous la conduite de Jean-François Méjanès, d'Arlette Cérulaz, de Régis Michel et de Pierrette Jean-Richard, donc nous étions une petite dizaine à pouvoir aller régulièrement dans la salle de consultation du cabinet des dessins, qui est cette salle tout à fait exceptionnelle qui se trouve à proximité du pavillon de Flore, à voir les dessins. Il s'agissait de dessins français du XVIIIe siècle et des carnets de David à l'époque de ses cours. Et ça a été un choc pour moi de pouvoir manipuler ces feuilles extrêmement précieuses. Et je garde un souvenir tout à fait enthousiaste de ces moments de découverte du fonds d'art graphique.
Est-ce que vous pensiez à l'époque devenir directeur de ce département ?
Non, pas du tout. Et en sortant donc de l'école du Louvre et de la faculté où j'avais fait de l'histoire, donc après avoir passé le concours, le premier poste donc a été à Versailles, où je me suis à la fois occupé de peinture du XVIIIe siècle et du cabinet d'art graphique, puisque j'étais responsable de la collection d'art graphique, aussi bien dessin qu'estampe, puisque c'est un fonds assez important. Et pendant donc les 13 années où j'ai été responsable de ce fonds, je me suis attaché à le mettre en valeur avec un certain nombre d'expositions, comme par exemple Trésor caché, qui avait circulé au musée de Rouen, puis ensuite au musée de Tessé au Mans, et qui montrait un choix d'une centaine de feuilles importantes du fonds de Versailles, et a publié des catalogues, dont en particulier le catalogue dédié à la collection de pastels, catalogue raisonné, qui permettait au public donc de bien connaître ce fonds de pastels, qui est un des fonds importants en France, après celui du musée du Louvre, et du même niveau que ceux de certains musées de province, et je pense en particulier au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Alors ces 13 années versaillaises ont été des années d'études du monument, de la vie du monument, parce que c'est vrai qu'un château-musée, c'est un petit peu différent d'un musée à proprement parler, et un souhait donc de valoriser les fonds dont j'avais la responsabilité, avec une passion marquée pour l'art du portrait, puisque bon, ça a été l'époque où j'ai pu organiser la rétrospective dédiée à Jean-Marc Nattier, celle dédiée à Maurice Quentin de la Tour ou à Alexander Roslin, tout en m'intéressant à certaines personnalités de cour, beaucoup de personnalités féminines, Madame de Pompadour et les arts, Marie-Joseph de Saxe à l'occasion de l'exposition qui avait été consacrée à Dresde, et puis ensuite Marie-Antoinette avec des expositions à partir du fonds de Versailles que nous avions donc présenté au musée des arts décoratifs de Bordeaux, et puis au Grand Palais avec la grande rétrospective que j'avais pu monter avec Robert Carsen.
Et donc après le château de Versailles, donc vous êtes, c'est vrai que je l'avais oublié, vous êtes venu à l'inspection des musées.
Tout à fait. Francine Mariani Ducret m'a sollicité en me disant qu'il serait bien d'avoir une autre vision et pas faire toute sa carrière dans un château musée. Et donc j'ai été quelques mois adjoint au chef de l'inspection, et puis au bout de quelques mois, donc la directrice des musées de France m'a confié ce poste de chef de l'inspection générale des musées. Alors ça a été pour moi l'occasion de travailler avec toute une équipe et de chercher à mieux faire comprendre ce que pouvait être un musée de France, en aidant en matière de politique d'acquisition, de restauration, en instruisant les dossiers des musées qui souhaitaient devenir musée de France, et donc en expliquant quelles étaient les règles pour pouvoir justement être musée de France. Et donc ce furent 3 années extrêmement riches de déplacements à travers l'ensemble du territoire pour mieux connaître les difficultés des collègues en région, essayer de répondre à leurs attentes avec l'aide des conseillers musées qui sont des personnes extrêmement précieuses à travers l'ensemble du territoire et qui sont des interlocuteurs privilégiés et qui font remonter quantité d'informations vers le service des musées de France.
Et donc c'est là que vous ensuite vous allez à Fontainebleau.
Voilà,
un autre château-musée finalement.
À la suite de la révision générale des politiques publiques, donc on m'a proposé soit de poursuivre donc de manière administrative au sein du service des musées de France, ou de reprendre un poste à caractère patrimonial. Et donc j'ai choisi de retourner vers les collections. Et donc on m'a confié la direction du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau. Avec la mise en place de l'établissement public du château de Fontainebleau, donc s'est mis en place également un triumvirat avec un président, un directeur du patrimoine et des collections et un administrateur général, de façon à valoriser donc à la fois le monument et ses collections.
Très bien. Et donc maintenant, c'est pour cela que vous êtes ici, donc le département des arts graphiques, où vous êtes arrivé, donc je crois officiellement en octobre. Vous me disiez et en juillet, parce qu'il y avait un.
Voilà, il y a eu une période d'intérim parce que mon prédécesseur Karel Van Teuil était parti
en janvier.
Donc il y a eu quelques mois où j'ai été effectivement sur les deux postes en attendant que mon successeur Vincent Droguet donc soit nommé
et qui a été nommé effectivement récemment
à Fontainebleau.
Voilà. Et alors parlez-nous donc le département des arts graphiques. Alors je pense que la plupart de nos auditeurs savent ce que ça comporte, mais c'est un monde.
C'est un monde, c'est un lieu magique. Rien que la salle déjà où le public peut consulter tous les jours de 13h à 18h, c'est une salle magnifique qui à l'origine est un escalier, puisque c'était l'escalier qui avait été voulu par l'empereur Napoléon III pour donner accès aux appartements d'invités qui se trouvaient dans le palais des Tuileries. Ça a été ensuite l'escalier d'un certain nombre de ministères, et en particulier le ministère des colonies. La décoration avec le grand plafond peint ainsi que les sculptures
de Cabanel.
Oui, de Cabanel et sculptures de Gênes Guillaume. Cette décoration a été achevée quelques années après la chute du Second Empire. Et puis, donc, le musée du Louvre s'étendant, il a été décidé de transporter les collections d'art graphique vers ce lieu et d'aménager l'espace de façon à pouvoir à la fois y recevoir le public et surtout disposer l'ensemble des collections tout autour dans des magasins qui sont à proximité immédiate de la salle.
Alors, le département des arts graphiques, je préfère le terme cabinet des dessins, mais officiellement, est-ce que le cabinet des dessins existe encore ou est-ce que c'est un sous-ensemble du département des arts graphiques est-ce qu'il y a des collections Rothschild également?
C'est un sous-ensemble. Le département des arts graphiques comprend trois entités. Le cabinet des dessins, qui est donc le cabinet historique, avec les fonds qui ont été constitués, réunis à partir des premiers achats faits par Louis XIV auprès, en particulier du banquier colonnais Évrard Liabard, et puis enrichi tout au long de l'Ancien Régime, avec un certain nombre d'acquisitions voulues pour Louis XV, pour Louis XVI, dans les grandes ventes du XVIIIe siècle, enrichi ensuite avec les saisies d'émigrés pendant la Révolution et les collections la collection Saint-Maurice, par exemple, ou du comte d'Orsay, sont entrées à ce moment-là dans le fonds du cabinet des dessins. Et ce fonds a continué à s'enrichir et s'enrichit encore aujourd'hui. Il y a, à côté donc de cet ensemble qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de feuilles, c'est un des fonds les plus riches au monde. Donc la collection Edmond Rothschild, qui est un fonds exceptionnel d'estampes dans des états de conservation et de rareté tout à fait uniques. Ça, c'était vraiment la volonté d'Edmond Rothschild de constituer une collection tout à fait de premier ordre, et qui vient compléter le fonds de dessin, parce que c'est vrai que normalement, les estampes sont plutôt destinées à la Bibliothèque nationale, mais là, il est vrai
qu'il y a aussi des dessins, d'ailleurs.
Tout à fait. Et le troisième fonds, c'est celui de la calcographie, qui donc est un fonds de planches de cuivre, planches de bois ou pierres lithographiques, et qui, encore une fois, est un fonds aussi constitué sous l'Ancien Régime et qui s'est formé en fonds destiné à être diffusé pendant la Révolution française. Et c'est un fonds qui continue à s'enrichir, comme le fonds du cabinet des dessins, puisque nous commandons quelques planches nouvelles aux artistes contemporains régulièrement, normalement tous les ans, de façon à témoigner de cette création qui se poursuit en matière de gravure.
Et alors, une chose avant de parler de votre politique, je rappelle qu'enfin, je crois que c'est toujours le cas, le cabinet des arts graphiques est accessible à tout le monde.
Tout à fait. Il suffit simplement d'envoyer un message ou d'écrire. Alors, département des arts graphiques, musée du Louvre, 75 058 Paris CEDEX 01, ou d'envoyer par voie internet à l'adresse cabinetdesdessins@louvre.fr un message en indiquant que l'on souhaite venir consulter. Alors, il faut simplement préciser ce que l'on souhaite consulter. Notre public est un public très diversifié, avec à la fois des chercheurs, bien entendu, qui viennent travailler sur les fonds, qui viennent préparer des expositions, des publications. C'est un public d'étudiants qui aussi s'intéresse, mais ça peut être également un public d'amateurs qui vient voir tel ou tel artiste, soit pour mieux connaître son style, soit simplement pour dessiner d'après l'artiste, puisque bon, on peut dessiner d'après les dessins des collections du Louvre.
Peut-être pas avec des bics, alors, avec des crayons noirs.
Ah oui, bien entendu. Aucun, pas d'encre.
Pas d'encre au cabinet des dessins. Voilà. Alors, parlez-nous. Alors, c'est vrai qu'à la tribune de l'art, on s'intéresse beaucoup aux acquisitions. On a parlé de quelques-unes des acquisitions qui ont été faites depuis votre arrivée. Je pense en particulier à un très beau, vraiment très beau pastel de Simon
Bernard Lenoir.
Bernard Lenoir, que je vais avouer, je ne connaissais pas jusqu'à présent. Et c'est vraiment son chef-d'œuvre, parce qu'il a des œuvres un petit peu moins intéressantes quand on les voit sur les reproductions. Mais ça, c'est vraiment une chose superbe. Deux miniatures de Jean Poyer pour l'Annonciation, l'Ange de l'Annonciation et la Vierge de l'Annonciation. Une Valmuller, un Valmuller, une aquarelle de Valmuller, donc la première aquarelle de Valmuller à entrer dans les collections nationales, je crois. Mm-hmm. Le Louvre avait déjà
trois tableaux,
voilà. Et avant de commencer cette émission, vous nous avez annoncé un scoop, puisque une acquisition toute récente.
Oui, nous avons pu faire hier l'acquisition en la présentant d'abord au comité d'acquisition du musée du Louvre et ensuite au conseil artistique, d'une feuille extrêmement importante, qui est une feuille de Pierre-Paul Prudhon. Représentant Dominique Vivant-Denon, donc le directeur du musée central des arts, devenu musée Napoléon. C'est une feuille tracée à la pierre noire avec rehaut de craie blanche sur papier bleu, c'est ce papier que Prudhon affectionnait tout particulièrement, et qui est préparatoire à un portrait qui a été commandé en 1812, commencé en 1813, laissé inachevé en octobre 1815, lorsque Denon, bien entendu, n'a pas souhaité, avec la restauration, poursuivre son activité de directeur du musée, et que Prudhon donc n'avait fait qu'ébaucher. On conservait au Louvre le visage, qui a été découpé donc sur la grande toile restée inachevée, et on ne connaissait la composition d'ensemble que par l'intermédiaire de ce dessin, qui est un dessin qui est connu depuis le 19e siècle.
Qui était exposé pour l'exposition de Prudhon.
Alors, il était dans l'exposition Prudhon, il était également présenté dans l'exposition Denon. C'est un dessin qui a appartenu à deux grands collectionneurs. D'abord Laperlier, qui a beaucoup collectionné Prudhon, et qui était d'ailleurs propriétaire du visage peint de ce portrait. Et il est passé, à l'occasion de la vente de Laperlier, dans la collection d'Eudox Marsil, qui est aussi un nom mythique matière de collection, avec un intérêt pour les grands maîtres du XVIIIe siècle et jusque donc à ces artistes de l'époque impériale.
Alors, donc voilà des acquisitions déjà depuis quelques mois vous êtes arrivé. Quelle sera votre politique d'acquisition? Est-ce que vous allez continuer celle qui était auparavant, donc par exemple des achats d'œuvres, je ne sais pas, italiennes 19e siècle, comme il y en a eu? Est-ce que vous avez renforcé des fonds? Est-ce que vous avez décidé? Qu'avez-vous décidé à ce sujet?
Alors, j'ai pas une politique particulièrement originale par rapport à celle de mes prédécesseurs. Il est légitime de renforcer des fonds qui existent ou de constituer des fonds qui n'existent pas. Alors, c'est le cas, par exemple, depuis que je suis arrivé, avec l'aide de l'ensemble de l'équipe du département, parce que c'est un travail bien entendu collectif, nous avons pu acheter une œuvre, une grande feuille de Laurent Pécheux, qui est cet artiste.
Oui, que non, je n'ai pas parlé non plus, voilà, c'est intéressant,
qui,
effectivement.
C'est un artiste qui.
L'adoration de l'image, vous m'avez dit juste avant.
Exactement, qui est une grande feuille qui était présentée dans
l'exposition Pécheux.
L'exposition que Sylvain Lavessière avait organisée. Et en l'occurrence, le département ne possédait qu'une académie de cet artiste. Donc, lorsque cette feuille nous a été proposée de gré à gré,
donc d'une collection particulière, c'est
voilà,
ça.
Voilà, nous avons pensé que effectivement, elle pouvait avoir sa place au département. Le but, c'est justement de compléter des fonds lorsque les artistes soit ne sont pas du tout représentés, et là je pense aux artistes français, soit très peu représentés. Et ensuite de développer des fonds quasiment inexistants. les acquisitions, comme par exemple la grande feuille de Louis Laguerre. Alors vous allez me dire, il est français, c'est un élève de Lebrun.
Il était à Londres, je crois.
Il a fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre, et c'est lui qui a couvert les grands plafonds des grandes demeures anglaises, en particulier.
Comme Verriot, les gens
voilà,
comme ça.
Comme Verriot. À Chatsworth, plusieurs des plafonds sont de Louis Laguerre. Et donc, c'est un moyen de montrer que, certes, la collection française est la plus riche, sinon la plus riche au monde, mais que nous souhaitons compléter avec les écoles étrangères.
Parce que le Louvre a une vocation, en tout cas, le cabinet des arts graphiques, le département des arts graphiques, je vais y arriver, comme le département des peintures, a une vocation universelle, en fait. C'est d'une collection universelle.
Tout à fait.
Voilà, oui.
Depuis les feuilles du XIVe siècle jusqu'au début du XXe siècle.
Comme justement les enluminures de Poyer qui datent de 15...
Qui sont de la fin du XVe.
C'est la fin du XVe siècle.
Qui sont des choses extrêmement rares. Nous ne possédions qu'une seule miniature au département. Et le fait qu'effectivement ces deux pièces qui sont une annonciation, qui viennent d'un ouvrage, ce sont des miniatures qui ont été découpées dans un livre, sont extrêmement précieuses pour connaître justement ce développement des arts dans le milieu tourangeau qui a été très bien montré récemment au Musée des Beaux-Arts de Tours.
Oui, vous en parlez sur le site, effectivement. Et donc, ce sont des dons des Amis du Louvre. Est-ce que vous... Comment décidez-vous? Est-ce que vous avez un budget d'acquisition qui vous est affecté, ou c'est en fonction, vous en discutez avec vos collègues des autres départements? Comment se passe le...
Alors, c'est un budget, c'est le budget d'acquisition du Musée du Louvre pour l'ensemble des départements. Les directeurs des départements se réunissent avec le président directeur en collège. Et nous nous présentons une fois par mois, nous nous présentons entre nous les projets d'acquisition en expliquant l'importance de telle ou telle acquisition. Et puis nous prenons une décision collective de pousser telle ou telle acquisition.
D'accord, oui, donc c'est vraiment global et la décision est prise collégialement.
Exactement. Et petit à petit, nous grignotons les crédits d'acquisition annuels jusqu'à la fin de l'exercice de chaque année.
Alors, la politique d'exposition maintenant. Je crois que Karel Van Teuil, étant parti en janvier, n'avait pas lancé beaucoup d'expositions. Il en avait lancé quelques-unes tout de même.
Alors, Karel avait mis en place la programmation pour cette année.
Oui.
Nous aurons cette année 3 expositions qui sont là dans quelques jours. Une très très belle exposition qui va être consacrée au décor de plafond dans le Paris du XVIIe siècle. Ça, c'est une exposition qui est coordonnée par Bénédicte Gady. Elle s'est entourée de toute une série de spécialistes pour justement évoquer cette manière dont on a créé les plafonds à Paris. Pour nous, ces expositions sont l'occasion à la fois de montrer les fonds, souvent de sortir des feuilles qui sont des feuilles méconnues, de les restaurer et de les étudier. À chaque fois, il y a un certain nombre de découvertes, et c'est le cas avec cette exposition, puisque Bénédicte montrera à la fois des feuilles inédites rendues à leurs véritables artistes, des feuilles qui permettent d'évoquer des décors qui sont parfois des décors disparus, et c'est le cas par exemple de certains plafonds des appartements du cardinal Mazarin dans l'hôtel Mazarin à Paris, et aussi de mieux comprendre la manière dont tous ces artistes ont été appelés à travailler pour ces grands commanditaires parisiens du XVIIe siècle. Et ce que j'espère aussi, c'est que ce sera l'occasion pour les visiteurs de l'exposition de reprendre le chemin des rues de Paris pour aller voir certains de ces plafonds, parce que certains
existent encore.
Existent
pas
encore.
Beaucoup. Il y avait d'ailleurs, je crois, un numéro de la Revue de l'Art spécial sur les plafonds parisiens.
Tout à fait, il y a quelques années. Mais il y a encore un certain nombre de plafonds qu'on peut admirer à l'occasion de visites, conférences.
Il y en a un qu'on espère admirer un jour à nouveau, c'est celui de l'hôtel Lambert.
Ça
va être un peu difficile pour le moment.
L'hôtel Lambert fait l'objet d'une section dans le catalogue.
Avec peut-être des dessins pour le cabinet détruit de Serge Le Sueur.
Il y a toute une série de feuilles pour le cabinet des bains, pour... la galerie, bien entendu, parce que vous savez que Bénédicte Gady a beaucoup travaillé sur...
Spécialiste de Lebrun.
Sur Charles Lebrun, donc c'est un des grands chantiers conduits au début de la carrière. Et la galerie a été magnifiquement restaurée par les actuels propriétaires. Et donc, c'est à nouveau l'occasion d'attirer l'attention sur cet ensemble patrimonial majeur.
Donc, la première exposition, c'est celle-ci, deux autres expositions.
Ensuite, il y a une exposition à caractère thématique, dédiée aux masques, aux mascarons et aux mascarades. Donc, la présence de cet élément dans l'art, de l'Antiquité à l'aube du 19e siècle. C'est une exposition dont le commissariat est assuré par une ancienne directrice du musée du département, qui est Françoise Vian, avec l'aide de Dominique Cordelier et de Violaine Jamais du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, et qui encore une fois permet de comprendre ce qu'a été le succès du motif du masque à travers l'histoire de l'art de l'Antiquité, donc à l'aube du 19e siècle.
Et donc, ta troisième exposition.
Et la troisième exposition est une exposition de type parti pris. Très souvent, il y a eu des invités au musée du Louvre. Et là, donc, Pascal Torres, qui s'occupe de la collection Edmond Rothschild, a invité Philippe Djian penser la thématique du voyage et à l'illustrer avec des œuvres de la collection Rothschild, mais aussi du département des Anglais.
Alors, maintenant, passons, donc ce sont des expositions qui vont avoir lieu cette année. Donc à partir de l'année prochaine, ça sera celle que vous aurez décidée avec votre équipe et avec, bien sûr, la direction du Louvre.
Tout à fait. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à l'ensemble des membres de l'équipe de me faire part de leur projet. Et nous avons donc dressé un programme d'une quarantaine d'expositions. Et ensuite, nous avons soumis donc ce programme.
Qui va jusqu'à quand?
Alors, normalement, le programme est établi jusqu'en 2017.
Alors, juste une question, parce que nous enrichissons beaucoup notre calendrier d'exposition, qui, je pense, est un des plus complets qu'on puisse trouver, qui est organisé par thème, par lieu, etc. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut déjà, sur lesquelles on peut déjà prévoir, même si elles ne sont pas totalement fixes au point de vue date, on peut prévoir automne, etc., ou 2017. Ce serait intéressant pour nous de les avoir, en tout cas, dans notre calendrier.
A priori, oui, il y a un certain nombre de ces expositions. Alors, il y a encore des flottements sur les dates.
On peut les modifier après les dates. Voilà, simplement, voilà. Ça donne une idée de ce qui viendra dans les 3 ou 4 années à venir.
Tout à fait.
Ce qui est très intéressant, je pense, pour nos lecteurs.
Alors, il y a des expositions au Louvre. Oui. Il y a des expositions hors du Louvre. Les expositions au Louvre ont été conçus souvent de façon à faire écho à d'autres expositions qui ont lieu au sein du musée du Louvre. Alors ce sera le cas par exemple en 2015, puisqu'il va y avoir une exposition dédiée à Poussin et Dieu. Oui. Et en pendant de cette exposition dédiée donc à Poussin, nous avons souhaité pouvoir présenter une exposition sur dessiner le divin et montrer comment finalement, après le Concile de Trente, la représentation de la divinité a évolué et s'est caractérisée dans certains milieux. Le milieu italien, le milieu romain, qui est un milieu d'exubérance, le milieu français où
jansénisme,
où le dieu est peut-être plus caché.
C'était une exposition qui avait eu lieu
à la Villa Médicis, oui, et qui avait permis justement de cerner cette dimension de la représentation divine dans la France du XVIIe siècle, qui a un caractère très original dans les premières décennies et qui petit à petit va s'orienter vers un modèle peut-être plus italien, plus ostentatoire. Et nous avons pensé qu'il était intéressant aussi de montrer comment cette divinité pouvait être représentée dans le milieu protestant, avec un certain nombre de personnalités comme par exemple Rembrandt. Il ne sera pas inintéressant de finir l'exposition en comparant par exemple une feuille de Poussin avec une feuille de Rembrandt, et en cherchant à distinguer ce qui fait l'originalité de l'un et de l'autre. Donc ça, ce sont des expositions qui vont permettre au public de faire des parcours avec une personnalité mise en avant, et puis peut-être un contexte qui permettra de comprendre pourquoi cette personnalité se dégage comme une personnalité. Alors ce sera également le cas en 2016, puisque normalement nous rendrons hommage donc à Hubert Robert.
Et, c'est une exposition Grand Palais, je crois.
Oui, et en pendant d'Hubert Robert, donc il devrait y avoir une exposition au Louvre sur les jardins d'Arcueil. parce que vous savez que ce jardin tout à fait extraordinaire qui se trouvait juste dans la banlieue de Paris a été pendant très longtemps un lieu où tous les artistes se sont rendus pour faire des dessins. Que ce soit Oudry, Boucher, Jacques-André Portail, Charles-Joseph Natoire, tous sont passés par Arcueil. Et nous avons un très très bel ensemble de feuilles représentant ces jardins d'Arcueil au Louvre et puis dans d'autres musées. Et le propos est donc de faire revivre ce site d'Arcueil pour montrer combien il a pu influencer l'art du paysage au XVIIIe siècle. Au même titre que les jardins de la Villa d'Est à Tivoli.
Alors, vous parlez également d'exposition hors les murs. Alors, je sais que vous avez parlé de Lens et d'Abu Dhabi, ce qui d'ailleurs ne me pose absolument aucun problème, puisque les dessins sont par nature, ne peuvent être exposés que trois mois, ensuite cachés 3 ans à peu près, hein, c'est ce qu'on dit en général. Rien n'empêche d'envoyer des expositions pendant 3 mois où qu'on veuille, du moment que les conditions de conservation sont respectées. Donc, je crois que vous voulez en dire un mot.
Tout à fait. Alors, le choix d'organiser un certain nombre d'expositions hors les murs, ça n'est pas nouveau. Et dès cette année, en liaison avec le travail que Catherine Loisel a conduit autour des dessins bolognais. Vous savez qu'elle a...
Un catalogue.
Énorme catalogue.
Dont malheureusement, c'est une honte de ma part, je n'ai pas parlé, alors que c'était
Vous avez encore l'occasion d'en parler.
Effectivement, on en parle déjà, voilà, nous en parlons là. On le mettra d'ailleurs sur la page de cette émission pour dire quand même que c'est un énorme travail remarquable.
Tout à fait, ça fait partie de ces catalogues d'inventaire qui nécessitent de la part des conservateurs des années de travail pour petit à petit étudier toutes ces feuilles, les revoir... savoir si elles sont classées sous le bon nom, les associer à des chantiers, des décors, etc. Et donc c'est un travail de base pour un conservateur. Et Catherine Loisel donc avait pendant plusieurs années donc travaillé sur le fonds bolognais. Elle a publié cet ouvrage à l'occasion de la parution de ce livre. Donc il y a déjà eu un choix de feuilles bolognaises. Présentée au musée du Louvre, et elle m'a proposé donc de faire un autre choix, et cette fois-ci de présenter ses dessins eh bien tout simplement à Bologne, au Palazzo Fava, qui est un lieu aussi tout à fait magique, parce qu'il comporte des décors de fresques, des Carrache, les premiers grands décors réalisés par les Carrache, et donc le Louvre va s'exporter à Bologne pendant 3 mois pour montrer ses richesses en matière d'art graphique. Alors c'est aussi le cas effectivement avec le Louvre Lens et le Louvre Abu Dhabi. Le Louvre Lens devrait accueillir à la fin de l'année 2015 une exposition que j'ai intitulé Danser, chanter, embrasser qui vous voudrez, en liaison avec la fameuse chanson créée par Madame de Pompadour, et qui sera dédiée à la thématique de la fête galante. Alors c'est une thématique qui est très à l'honneur, puisque le musée Jacques Marandré va ouvrir incessamment sous peu une exposition dédiée au même thème, dont le commissariat est assuré par Christophe Vogter, le directeur de la Wallace Collection. Et j'ai proposé donc un thème similaire sur la fête galante, tout simplement parce que dans le nord de la France aura lieu aussi une exposition dédiée à Watteau au musée de Valenciennes, consacrée aux emprunts fait à l'art italien par Watteau. Et donc, il me semblait intéressant de pouvoir montrer effectivement comment, avec la mise en place de la thématique de la fête galante reconnue par l'Académie royale de peinture et de sculpture, puisque Watteau est reçu avec le pèlerinage à l'île de Cythère, ou vers l'île de Cythère, ou au départ de l'île de Cythère, comme un peintre de fête galante.
Alors, est-ce que c'est une exposition, parce qu'il y a des très grandes salles, c'est énorme, les salles d'exposition temporaires de Lens, ça sera...
Ce sera dans ces espaces-là.
Dans tous ces espaces, donc il y aura beaucoup de dessins.
Oui.
Enfin, et les tableaux aussi.
Ce ne seront pas que des dessins.
D'accord, ça fera une exposition, dessins, tableaux, etc.
Dessins, tableaux, sculptures.
D'accord.
Parce que je souhaite, à cette occasion, montrer comment ce thème de la fête galante s'est diffusé en France tout au long du XVIIIe siècle, parce que des gens comme Boucher, lorsqu'ils traitent la pastorale traite le thème de la galanterie aussi, mais aussi montrer combien ce modèle français s'est diffusé à travers toute l'Europe. Aussi bien dans les territoires de langue germanique, avec des gens comme Dietrich, avec des sculpteurs comme Ferdinand Tietz, qui pour les résidences des princes-évêques Schönborn autour de Würzburg vont créer en grès ces sculptures à motif de galants et de galantes, comme en Italie aussi, avec la sculpture vénitienne autour de Venise, dans les grandes villas, avec des gens comme Bonazza, etc. Donc vraiment expliquer comment ce thème de la fête galante, qui est un thème que les Français se réapproprient au début du XVIIIe siècle, parce que ça n'est pas une invention française, la peinture nordique présente déjà la thématique de la fête galante, eh bien, vont donner à l'Europe un modèle.
Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, on essaiera de noter dans notre calendrier un maximum d'expositions pour que les gens puissent se préparer à aller voir toutes celles-ci.
Les nouvelles très très brèves.
Alors, des nouvelles très très brèves qui seront certainement peut-être vraiment très très brèves, cette fois-ci en tout cas les premières. Pour vous signaler d'abord que deux expositions dont nous avons parlé sur ce site, François-André Vincent, qui était au musée des Beaux-Arts de Tours, a ouvert au musée Fabre de Montpellier et il sera présenté jusqu'au 11 mai. Notre collaboratrice, Bénédicte Bonnet-Saint-Georges s'y rendra pour en faire une recension peut-être plus courte que celle que nous avons faite, puisque c'est la même exposition avec quelques tableaux nouveaux et avec des dessins justement nouveaux, puisque comme les dessins ne peuvent pas être exposés plus de 3 mois, ils ont entièrement changé. Également une autre exposition, Le goût de Diderot, qui était, elle, présentée au musée Fabre de Montpellier, et qui s'en va au musée de l'Ermitage en Suisse, donc qui est ouverte jusqu'au 1er juin 2014. Donc c'est les collaborations entre musées pour faire tourner une exposition pendant 2 ou 3 étapes sont à la fois intéressantes parce qu'elles permettent de voir un gros travail qui est fait, qui peut être vu par plus de personnes, et ça permet également de partager les coûts entre les musées, ce qui est toujours utile en ces temps de disette budgétaire. Signalons également, nous avions reçu il y a quelques semaines Olivia Voisin du musée d'Amiens, signalons que, elle nous l'avait dit je crois, que le musée de la vie romantique, à partir du 22 mars prochain, aura en dépôt pendant 3 ans 10 tableaux du musée d'Amiens, puisque le musée d'Amiens est en travaux, et que cela permettra au musée de la vie romantique d'ouvrir en dehors des expositions l'atelier et l'antichambre, l'atelier salon et l'antichambre, quand on arrive, en fait, c'est à gauche dans le musée, ce qui, jusqu'à présent, le musée, en dehors des expositions, était ouvert simplement dans la principale maison, et là, ça permettra d'ouvrir plus largement le musée en exposant ses tableaux, et qu'il y aura également 20 dessins du musée de Picardie qui sera exposé dans le cadre du salon du dessin lors d'une exposition au musée de la vie romantique. Restons dans le dessin avec un regret. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges avait écrit une brève il y a 2 jours sur une vente de Maurice Denis, de plusieurs tableaux et dessins de Maurice Denis chez la SVV Bossan-Lefèvre à Drouot. Le dessin Le Cœur, qui était vraiment très beau, un très très beau carton on peut dire, puisque c'était d'assez grande taille, qui était préparatoire pour la coupole du Théâtre des Champs-Élysées. On aurait bien vu ce dessin entrer dans les collections d'un musée, particulièrement du musée Carnavalet, puisque c'est pour un bâtiment parisien. On ne pensait pas que le musée Carnavalet pourrait l'acheter, puisqu'on sait que les budgets des musées de la ville de Paris sont extrêmement faibles, et hélas, malheureusement, ce dessin n'a pas été acheté par le musée Carnavalet, peut-être une prochaine fois. Une petite nouvelle également, la résille, l'horrible résille qui se trouve sur l'immeuble des Bons Enfants du ministère des Cultures en face de l'ancien Louvre des Antiquaires est revenue. Nous en avions parlé il y a quelques semaines, elle était partie à l'occasion de travaux, ça prouvait en tout cas qu'on pouvait l'enlever et que les héritiers et les descendants de Vaudoyer qui avaient gagné leur procès contre l'architecte et contre le ministère de la Culture d'ailleurs aurait pu finalement réclamer également l'enlèvement de cette grille, puisque c'est très simple de l'enlever. Enfin, on sait maintenant qu'il est très simple de l'enlever, espérons qu'elle sera enlevée un jour. Un mot également sur l'éolien. Rappelons que la Cour européenne de justice a récemment annulé les subventions accordées à l'éolien qui fixe un prix de rachat. Alexandre Gadi, qui était notre invité, nous en avait parlé. La Fédération Environnement Durable nous a signalé que le gouvernement espagnol a déclaré qu'il mettrait fin à toutes les subventions concernant les prix capacité des parcs éoliens mis en service avant fin 2004 et a diminué fortement celle-ci pour les capacités plus récentes. Ce qui veut dire en fait que le prix de l'éolien, le prix de l'électricité était rehaussé en Espagne comme en France pour payer ces éoliennes et que c'était complètement contraire à la loi européenne. C'est une excellente nouvelle qu'on aimerait voir appliquée en France. Comme le disait également Alexandre Gadi, nous sommes tous en droit de réclamer le remboursement de ce que nous avons payé en trop sur nos factures d'électricité. Il faut le répéter encore, l'éolien n'est en aucune manière une solution pour le développement durable, il est au contraire une source importante de nuisances écologiques et, pour ce qui nous concerne, d'atteinte au patrimoine. Une petite nouvelle encore d'un château menacé, le château de Pizy en Bourgogne, mais signalons-le encore, et nous le ferons à chaque fois que nous le pourrons, parce qu'il n'y a pas de raison de critiquer le ministère de la Culture et de ne pas dire lorsqu'il fait quelque chose de bien, la DRAC de Bourgogne a classé il y a quelques mois le château de Pizy, qui est un superbe château du XIIIe siècle. Nous mettrons en ligne sur le site et sur la page consacrée à cette émission un lien qui vous amènera vers la société qui s'est créée, l'association qui s'est créée pour le sauvegarder. En fait, ce château appartient à une fondation suisse qui n'a pas l'argent pour le restaurer, qui ne veut pas le restaurer, alors que la DRAC a imposé des travaux d'office. Donc la fondation souhaiterait le vendre, une association donc, qui s'est créée il y a 4 ans souhaiterait la racheter ce château pour pouvoir le sauver. C'est encore une fois, ça c'est vraiment une chose très bien d'une association qui se crée pour sauver le patrimoine. Nous mettrons un lien vers cette association et peut-être nous lui consacrerons un article ultérieurement. Encore sur le mécénat, en tout cas, la Fondation du patrimoine, et ça je me tourne vers Xavier Salbon, puisqu'il vient de décider de donner 200 000 euros pour la restauration du salon jaune de l'impératrice à Fontainebleau, et vous étiez à l'origine... avec Vincent Cochet.
Oui, c'est un très beau projet qui a été conduit au château par Vincent Cochet. Et il y a effectivement au rez-de-chaussée des appartements privés, donc dans l'appartement de l'impératrice, une pièce qui est ornée d'un ensemble de textiles qui à l'origine était jaune et brodé en rouge. Et aujourd'hui, c'est uniformément gris. Donc la question s'était posée de savoir si nous enlevions les textiles pour les faire retisser et rebroder, et donc présenter au public des œuvres modernes, enfin des textiles modernes, ou si nous tentions de les laisser en place et de les nettoyer. Et il est vrai qu'il y a une nouvelle technique qui permet de nettoyer ces textiles et donc de leur redonner une coloration jaune un peu plus profonde et surtout de poser sur la surface du textile une gaze qui est colorée dans les zones qui sont brodées dans la couleur d'origine, ce qui fait que l'on restitue petit à petit la bichromie de ces textiles jaune et rouge sans avoir à déposer, sans avoir à supprimer ces décors d'origine, tout en permettant au public de mieux comprendre quel était l'accord chromatique de la pièce. Donc ça, c'était, on avait fait un premier essai sur un des panneaux qui était extrêmement concluant, et à la suite de cet essai, donc les équipes du château de Fontainebleau ont cherché un mécénat et donc l'ont trouvé.
Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, je dirais, parce qu'on a trouvé le mécénat et aussi parce que c'est vrai que c'est une chose dont j'avais d'ailleurs eu l'occasion de parler avec vous à l'époque, c'est la question de se poser, est-ce qu'on restaure... des fois, c'est vrai que c'est impossible de restaurer certains tissus qui sont complètement morts, mais si on peut les restaurer et les conserver, c'est quand même beaucoup plus authentique que de refaire du faux, et c'est un petit peu des fois le problème qu'on se pose dans ces châteaux-musées, qui sont à la fois des musées, mais également des châteaux...
Ah, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que il est vrai que si les grands châteaux-musées, Versailles, Fontainebleau, Compiègne, n'avaient pas, dans les années passées, fait retisser par les soyeux lyonnais à l'identique sur les métiers à bras et bien ces étoffes, aujourd'hui ce savoir-faire n'existerait plus parce que c'est vrai que petit à petit ces chantiers devenant de plus en plus rares, et bien les soyeux lyonnais perdent ce savoir-faire. Donc
c'est très compliqué.
Voilà, en tout cas, il faut trancher entre soit tout refaire, soit conserver quand ça peut être conservé, mais je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée de faire refaire à l'identique, parce que c'est aussi, ça fait partie de notre patrimoine, ce savoir-faire des soyeux lyonnais.
Alors, dernière nouvelle brève, signalons que Annie Cloulas, donc, qui est une historienne de l'art bien connue, vient de publier sur Internet un très long texte qu'elle avait proposé à la Tribune de l'art, mais c'est trop compliqué pour nous de le mettre en ligne, c'est sur l'iconographie de la Sainte Anne Trinitaire. Donc nous mettrons le lien sur la page. Donc c'est une étude, en fait, c'est presque un livre sur l'iconographie de Sainte-Anne-Trinitaire. Nous engageons effectivement tous les lecteurs à aller voir ceci. C'est Internet permet souvent de publier des choses qui seraient difficiles de publier ailleurs, parce que c'est pas vraiment un article, c'est trop long, c'est pas vraiment un livre, donc où le publier, sinon sur Internet, en tout cas, voilà, c'est fait. Alors, Je me retourne à nouveau donc vers Xavier Salmon pour reparler du cabinet du département des arts graphiques. Je vais y arriver. Et quelles sont, alors, on a vu les expositions, quels sont vos, je suppose que vous avez également des axes de recherche qui, peut-être certainement même déboucheront ces expositions, des publications, on a parlé déjà des publications, de la publication des dessins bolognais, il y en a certainement d'autres sur les collections en dehors des expositions qui sont en préparation, et éventuellement également les mises en ligne. Alors c'est vrai que le département est extrêmement présent sur le site du Louvre, hein. C'est vrai que pratiquement tous les dessins sont accessibles. En revanche, j'ai l'impression que de temps en temps, les attributions n'ont pas forcément été remises à jour tout le temps. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire? C'est vrai que c'est un gros travail, hein. Il y a 100 000 dessins, 100, je crois.
133 000.
133 000 dessins. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir...
Sur le site.
Sur le site, oui. Oui. Ils ne sont pas tous sur le site, hein,
non, il en manque quelques-uns encore. Mais, oui. Mais bon, parce qu'il y a la collection est estimée autour de 140 à 150 000 œuvres.
D'accord.
Après, on compte la feuille ou la face dessinée, ce qui fait que quand vous avez un dessin recto verso, ça fait deux œuvres. Voilà.
Alors, en tout cas, c'est vrai que pratiquement, c'est très largement illustré, cette base, ça s'appelle la base en fait, des arts graphiques.
Oui, tout à fait, base de données du département des arts graphiques.
C'est certainement une des meilleures bases de données de dessin du monde, hein, soyons clairs, même si beaucoup d'autres, le British Museum est largement en ligne, là, ces dessins largement en ligne, il y a beaucoup de... Mais c'est vrai que c'est une somme extraordinaire, mais pas toujours remise à jour.
Alors, c'est un énorme travail qui a fait l'objet là d'une seconde version qui a été mise en ligne au début de l'année 2013, donc qui tenait compte d'un certain nombre de modifications dans les attributions d'identification de lieux, etc. Bon, mais il faut savoir que la collection du département est une collection vivante, c'est-à-dire qu'en permanence les chercheurs donnent de nouvelles attributions, identifie les lieux, identifie le collectionneur, etc. Donc c'est une base qui doit être tenue presque au jour le jour. C'est la même chose avec la collection elle-même, parce que il y a un travail de reclassement qui est fait toutes les semaines, qui est conduit par Dominique Cordelier, en fonction justement de tous les travaux qui sont conduits à travers le monde à partir des artistes représentés dans le fond.
C'est tout des Danaïdes, en fait. C'est un travail de Sisyphe, enfin, c'est impossible à terminer.
C'est-à-dire que il faut vraiment continuellement modifier les informations qui sont fournies. Et dans la nouvelle version de la base, d'ailleurs, il y a la possibilité pour les personnes qui consultent, justement, de donner des informations.
C'est ce que vous avez dit, Jean-Luc Martinez, lorsque nous l'avions interviewé, effectivement.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que c'est interactif et ça nous permet de modifier. Alors, ça a été le cas, j'ai posé la question à l'occasion du rapport d'activité, en disant, mais alors, combien de personnes se sont manifestées et il y a effectivement environ une vingtaine de personnes qui ont fait qui ont ajouté des éléments en matière d'identification de lieux, surtout, plus qu'en matière d'identification.
Mais des personnes qui sont des spécialistes ou des personnes même que vous ne connaissiez pas?
Ah non, je pense qu'il y a des personnes que nous ne connaissons pas, mais qui sont des gens passionnés par le dessin et qui du coup n'hésitent pas à donner des informations. Pour vous donner un exemple, vous avez dans le fond de la croix des vues de Tanger, qui sont des vues extrêmement célèbres, et il y a une feuille qui de très longue date est intitulée Porte dans un bâtiment arabe, et en l'occurrence il s'agit d'une porte dans un fond doux, dans un caravansérail qui existe toujours à Tanger, qui est pas très loin de la grande mosquée de Tanger, et qui du coup a pu être identifié. Et maintenant on pourra dire qu'il s'agit de la porte de tel caravansérail.
Et donc vous filtrez donc l'information, vous avez l'information, après vous la validez et vous la mettez en ligne.
Tout à fait.
C'est ça.
Petit à petit. Voilà. Donc.
Alors pour les publications.
Alors les publications, bon, bah, c'est un chantier de longue haleine. Il y a effectivement ces inventaires du département comme celui des dessins bolognais. Et puis après, il y a toute une série de publications qui sont dédiées aux collections. Alors, celles qui devraient paraître dans les mois ou dans les années qui viennent sont dédiées à, par exemple, le carnet de dessins florentins de Filippo Baldinucci, qui est un carnet qui a été étudié par Jacqueline Biscontin pendant des années, qui est une sorte de recueil de la seconde moitié du XVIe siècle de modèles Donc tracé d'après l'antique, tracé d'après les sculptures contemporaines, etc. Et ça a été un très long et très patient travail d'identification de ces sources. Et donc l'ouvrage devrait paraître en collaboration avec l'Université de Berlin et permettre au public qui s'intéresse à ces questions des recueils de mieux connaître cet ensemble. Après, vous avez... Des moines pratiquement au département, comme par exemple Bernadette Py, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de la comparer à un moine, mais elle a travaillé sur la collection de dessins italiens de Pierre Crosa. Et donc elle a fait un essai de catalogue raisonné, et ce sont là des centaines et des centaines de feuilles.
Qui
vont être publiées. La même chose avec les dessins étrangers de la collection Mariette. Pierre Rosenberg avait publié les dessins français. Donc il a enchaîné avec les dessins étrangers. Et c'est aussi pour nous l'occasion, à l'occasion de la parution donc, de ces ouvrages, eh bien de montrer des choix de feuilles dans des expositions.
Alors, en revanche, je sais que Jean-Luc Martinez avait dit qu'il n'avait pas. J'aimais bien la salle d'actualité qui était assez souple finalement. Ça ne va pas continuer, ça, je crois ou...
Alors, il y a des projets de réaménagement des espaces.
Oui, c'est vrai.
Voilà, et donc, bon, pour le moment, la programmation de la salle d'actualité. Est faite jusqu'en fin 2016. Le département des peintures, et en particulier le fonds de peinture anglaise, est un petit peu à l'étroit.
C'est vrai. Je le déplore souvent, effectivement.
Et notre salle d'actualité ferait un espace supplémentaire.
Bien sûr.
Et nous sommes en train de repenser, de revoir la disposition des espaces, et même aussi de façon à ce que les arts graphiques soient peut-être... présenté dans un lieu plus accessible, parce que c'est vrai que notre public est fidélisé, mais il doit traverser une grande partie du musée pour réussir à voir les expositions. Alors c'est toujours l'occasion de revoir des œuvres sur le chemin, mais Jean-Luc Martinez a manifesté le souhait que les expositions soient recentrées à proximité du hall Napoléon, c'est pourquoi d'ailleurs avec l'exposition Poussin, nous occuperons une partie des espaces sous pyramide de façon à créer un grand circuit.
D'accord. Et je ne sais jamais comment s'appellent ces salles, c'est terrible.
Alors, ce sont les salles Molien.
Voilà, salle Molien, voilà.
Entre les salles de peinture.
Je connais
française,
le Louvre par cœur, mais alors vraiment, là, je n'arrive jamais.
Et la grande galerie avec effectivement les
c'est
tables.
Parce que ces tables de Villemotte, je ne suis pas un grand adepte de cette manière d'exposer.
Ce sont des espaces que nous allons repenser. Nous devons continuer à organiser des expositions au sein des espaces muséographiques, de façon à pouvoir et avoir des cimaises peut-être plus faciles à utiliser et peut-être un peu moins contraignantes que les tables Villemotte qui effectivement entraînaient la présentation de 3 dessins par table, ce qui peut être parfois difficile dans le propos à développer.
Très bien. Bon, il y a quelquefois des petits soucis sur les inter-séquences qu'il faudrait que j'arrive à résoudre. Je vois Xavier Salmon rire parce qu'effectivement j'ai fait une espèce d'acrobatie pour atteindre la table de mixage, c'est pas très simple. Voilà, donc excusez-nous pour je crois que j'ai loupé le début de ce petit jingle sur la revue de presse. Donc la revue de presse, on va essayer de faire assez court. Signalons simplement, sans le commenter parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à en dire, un article de Jean-Jacques Larochelle dans Le Monde le 13 février, on le trouve sur internet, sur une bataille de vision autour du Grand Palais. Jean-Jacques Ayagon n'est pas d'accord avec la vision de Jean-Paul Cluzel de ce que va devenir le Grand Palais. Moi je dois dire que d'après ce que j'ai lu, Jean-Paul Cluzel souhaite conserver Ah, excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le terme, le musée scientifique qui se trouve dans le Grand Palais, le palais de la découverte. Il souhaite le conserver au Grand Palais, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il souhaite également éviter de trop confier au privé le Grand Palais, je trouve que c'est pas mal non plus. Donc voilà, vous irez lire cet article de Jean-Jacques Larochelle dans Le Monde pour vous faire une idée de ce que doit devenir le Grand Palais. En tout cas, il y a eu le nom de l'équipe d'architectes qui doit réorganiser le Grand Palais a été nommé. En revanche, je n'ai pas vu le projet. J'espère qu'il respecte parfaitement le monument historique. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Deuxième article de Vincent Noce, qui parle, ben, on y parle du Louvre et qui parle de la restauration. Alors nous n'avons pas parlé de cette restauration en cours de la Vénus du Pardo de Titien. Renvoyons à l'article de Vincent Noce, là non plus, je n'ai pas vraiment ni de choses à dire, ni en bien ni en mal, c'est un article de Vincent Noce qui vous donnera tous les éléments, et éventuellement nous parlerons de cette restauration ultérieurement. Mais l'article sur lequel je souhaiterais m'attarder un petit peu est un excellent article d'Adrien Goetz, ce qui ne tiendra personne, qu'il soit excellent. C'est un article, vous le savez, Adrien Goetz dans Le Figaro a une chronique tous les jeudis, et là il appelle ceci Dominique Perrault, parade à Versailles, et il parle de cette nouvelle entrée versaillaise. Donc je ne demanderai pas à Xavier Salmon de réagir par rapport à ça, puisque je ne suis pas certain que ça... Enfin là, donc je prends la responsabilité de tout ce que je dis. Moi, je n'aime pas beaucoup ce qui est prévu. Je ne vais certainement pas me bagarrer contre cette entrée qui n'est pas vraiment... un grand massacre, mais qui n'est pas non plus très très beau. Et je ne résiste pas à citer, au plaisir de citer Adrien Goetz. Désormais, le visiteur découvrira une vaste salle qui joue avec les codes versaillais, les moins subtils, parquets et dorures à grands frais de lustrerie et de métallerie. Croire que pour les braves gens, Versailles, c'est d'abord kitsch et étincelant, c'est mépriser a priori les visiteurs, censés ne faire aucune différence entre les fines boiseries sculptées du cabinet du roi et le buffet de la gare de Lyon. Même si j'aime beaucoup le buffet de la gare de Lyon, on ne peut pas effectivement comparer les deux. Et je trouve que, en tout cas, la maquette du futur pavillon du four, qui est en illustration sur cet article, me paraît un peu clinquant et sans grand intérêt. Mais bon, il fallait absolument faire venir un grand architecte contemporain, comme je les appelle, Dominique Perrault à Versailles. On sait que Dominique Perrault est également l'auteur de la grande bibliothèque. Je n'en dirai pas plus. Je me retourne une dernière fois vers Xavier Salmon pour parler actuellement, donc vous nous parliez de pas une exposition, mais l'exposition d'un tableau dont que nous avions cité il y a quelques jours et qui se poursuit encore pendant 2 semaines et dont nous vous parlerons dans un article dès demain ou après-demain sur la Tribune de l'Art.
Oui, il s'agit d'une œuvre tout à fait exceptionnelle de Rosso Fiorentino, Le mariage de la Vierge, qui a été peint en 1523 pour une des chapelles de la basilique San Lorenzo à Florence, commandée par Leonardo Ginori. Et ce tableau donc a été restauré pendant plusieurs années. Et à l'issue de sa restauration, l'ambassadeur d'Italie a souhaité pouvoir le présenter à l'ambassade d'Italie, donc à Paris, rue de Varennes. Et il est exposé dans le très beau petit théâtre sicilien au rez-de-chaussée de l'hôtel de la Rochefoucauld d'Oudouville, donc rue de Varennes, et jusqu'au 28 février. Ensuite, le tableau repartira à Florence pour prendre place dans la grande exposition qu'Antonio Natali, le directeur des offices, a souhaité donc au Palazzo Strozzi, autour de 2 personnalités de ce maniérisme florentin toscan du XVIe siècle, que sont donc Pontormo et Rosso Fiorentino. Alors, Rosso Fiorentino a été l'objet de toute mon attention pendant ma période Bellifontaine.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais
je m'étais intéressé justement à ces maîtres
italiens. Il y avait une très belle, superbe exposition d'ailleurs.
Voilà, qui avait été organisée par Vincent Droguet, ouais, au château et qui permettait de...
Dont la Tribune de l'Art avait dit beaucoup de bien parce qu'elle en pensait beaucoup de bien.
Et de son catalogue en particulier.
Et son catalogue, oui.
Voilà. Et donc, à l'occasion de la présentation donc de ce tableau à Paris, on m'a demandé de reprendre un texte sur la présence de Rosso Fiorentino en France, puisque c'est vrai qu'il est arrivé en France en 1530, qu'il y a travaillé jusqu'à son suicide en 1540, et qu'il est resté au service de François Ier donc pendant toutes ces années en créant de très beaux ensembles, dont aujourd'hui seul subsiste la galerie donc de Fontainebleau. Alors, c'est à la fois l'occasion de voir ce grand chef-d'œuvre de la peinture florentine, mais aussi de découvrir les intérieurs de l'hôtel de la Rochefoucauld d'Oudouville, qui est un lieu tout à fait magique, avec ces grands salons qui réutilisent des lambris venant d'autres ensembles parisiens, mais aussi des décors italiens. Et le tableau est présenté donc dans le théâtre, au milieu des lambris qui viennent du Palazzo Butera de Palerme, et qui sont tout à fait emblématiques de ce goût du barocchetto palermitain, rarissime en dehors de la Sicile, et que, exceptionnellement, donc, on peut voir à Paris avec cette exposition.
Alors, Quels sont vos... Vous êtes donc, ça doit vous occuper beaucoup de temps de diriger le département des arts graphiques. Est-ce que vous avez le temps de faire encore des recherches?
Alors, j'étais commissaire d'une exposition à Fontainebleau, et donc j'ai souhaité maintenir ce travail et rendre hommage à François Gérard.
Oui, une exposition qui commencera bientôt.
Voilà, qui commencera à la fin
du mois. Rétrospective complète, en fait, du peintre.
Alors, c'est... dans sa dimension de portraitiste.
D'accord.
Vous savez ma passion pour l'art du portrait. Oui. Et j'ai trouvé que Gérard était finalement un héritier de ces grands peintres de portraits du XVIIIe siècle, puisqu'il a reproduit au service de la cour impériale et ensuite des Bourbons de la Restauration jusqu'à Louis-Philippe, eh bien des pratiques de cour avec un atelier extrêmement important qui l'aidait à peindre toutes ces effigies qui présentent des compositions qui n'ont rien à envier à celles d'un Rigaud, d'un Louis-Michel Vandelot ou d'un Calais à l'époque de Louis XVI. Et donc, grâce à plus de 70 œuvres, on pourra découvrir cet art du portrait qui a été particulièrement encensé du vivant de François Gérard depuis les toutes premières œuvres, avec en particulier celui de le portrait de Fleury, l'acteur, qui est aujourd'hui conservé à la Comédie-Française, jusqu'aux dernières œuvres, avec le portrait de Charles X en grand habit de couronnement, et qui montrera combien Gérard a été effectivement un portraitiste à la mode, tout en cherchant à souligner pourquoi il a été à la mode et quelles sont les limites de cet art. Bon, ce sera une somptueuse galerie de portraits de toutes les grandes personnalités qui ont marqué la France entre 1795 et 1830, avec des noms extrêmement célèbres, des œuvres majeures comme le portrait de Juliette Récamier, par exemple, du musée Carnavalet, et qu'on pourra revoir au milieu des autres portraits.
Très bien. Et bien, pour terminer, nous ne mettrons pas de jingle livre, puisque finalement, c'est aussi bien de le dire. Voilà, nous allons parler de livres. En fait, nous avons parlé de deux catalogues d'expositions qui ont toutes les deux été vues par Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, qui fera des articles, qui leur consacrera des articles dans les prochains jours. Mais c'est l'occasion de dire déjà que ces expositions existent, puisqu'il y a une exposition Pierre-Antoine de Machy au musée Lambinet à Versailles. Et c'est vrai que le musée Lambinet n'est pas très médiatisé, et c'est toujours intéressant de dire, il y a un catalogue donc que je suis en train de feuilleter, que je n'ai pas lu, mais qui, ma foi, est un catalogue qui a l'air tout à fait avec pas mal de beaucoup de textes. On aime bien les catalogues des textes, donc ça veut dire qu'il y a eu du travail derrière, avec des notices. En tout cas, c'est le musée du Louvre a prêté, mais les peintures, apparemment, il n'y a pas eu de dessin demandé au cabinet des dessins. Et donc, cet ouvrage est sous la direction de Françoise Roussel le Riche et de Marie Petkoff Ska Leroux. L'exposition aura lieu jusqu'à 18 mai, mais nous aurons l'occasion d'en reparler sur la Tribune de l'Art. Et une deuxième exposition que je n'ai pas vue non plus, et j'ai également le catalogue en main. Là encore, signalons-le, que je ne sais pas si l'exposition est bonne, je ne sais pas si le catalogue est bon, mais en tout cas, il est assez beau, avec des notices également. C'est une exposition de mobilier sur Le Vernis-Martin, Les secrets de la laque française, Le Vernis-Martin, une exposition donc au Musée des Arts Décoratifs qui se terminera le 8 juin 2014. Il me reste à me retourner vers Xavier Salmon. Est-ce que un mot de la fin, ou est-ce que vous avez dit il y a des choses que vous auriez aimé dire dans cette émission?
J'incite les visiteurs à aller voir l'exposition sur le lac français, parce que
je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils disent pas le lac.
C'est des petites finesses au niveau du
parce que j'ai lu le titre, hein, Les secrets de la laque française, mais normalement on dit le lac,
parce que c'est vraiment un moment de perfection dans la création française, avec justement ces meubles à l'imitation des lacs du Japon, de Chine, et en particulier donc à l'initiative des frères Martin, qui ont été parmi les très grands faiseurs de ces œuvres.
Voilà. Donc écoutez, il me reste à vous remercier, à vous dire à la semaine prochaine, donc jeudi 20 février, pour un nouveau numéro de la Semaine de l'Art.